Mesdames, Messieurs, alors ce soir, je vais vous présenter les textes que nous avons publiés, que le Centre d'études contre-révolutionnaires a publiés concernant, c'est une façon de commémorer, concernant la grande, l'admirable révolution. D'abord, je vous rappellerai sommairement la genèse de la terreur et pour vous montrer dans quel contexte nous avons voulu choisir ces textes. La première violence révolutionnaire a été commise, en fait, au moment où, le 17 juin 1789, les députés du tiers se sont emparés indûment du titre de représentant du peuple et où ils se sont proclamés Assemblée nationale. Certains députés avaient des scrupules. Ils craignaient d'usurper une qualité qu'ils n'avaient pas. Telle ville, tel bailliage les avait mandatés, mais ça n'était pas tout le peuple. Et pour s'en rendre compte, il suffisait de se référer à leur mandat. Alors naturellement, Mirabeau a balayé toutes ses réticences. « Si nous prenons le titre de représentant du peuple, dit-il, qui peut nous l'ôter, qui peut nous le disputer ? Et si est-ce de renchérir ? Est-il une puissance sur la terre qui puisse nous ôter le droit de représenter nos commettants ? » Évidemment, les arguments ne pesaient pas beaucoup au point de vue juridique, mais ils étaient affirmés avec beaucoup de certitude, et on s'en est tenu là. Bien que le nouveau représentant du peuple venait de s'introniser lui-même, et déjà, il devait imposer silence à ceux qui doutaient de sa légitimité. Déjà, il devait supprimer ceux qui voulaient prendre sa place. Dès juin 89, la première mesure prise par l'Assemblée nationale est d'ailleurs significative, puisque c'est le 22 juin la proclamation de l'inviolabilité de la personne des députés. On n'est jamais trop prudent. Il serait interdit, je cite, « d'arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député. Toute personne qui prêterait leur ministère à l'un de ces attentats serait infâme, traître envers la nation, coupable de crimes capitaux. » Vous voyez, infâme, traître envers la nation, coupable de crimes capitaux, c'était déjà le langage de la terreur que l'on employait en 89. Il ne s'agissait à ce moment-là encore que de menaces, mais elles ne pouvaient pas suffire. Depuis l'abdication royale de fait du 23 juin, l'anarchie spontanée s'est en fait déclarée partout dans le royaume. Les nouveaux maîtres risquaient d'être détrônés d'un instant à l'autre, alors ils ont parlé du complot. C'était une invention géniale et capitale, car le complot justifie la terreur. Bien sûr, les complots sous la Révolution ne relèvent pas tous de l'imagination. L'histoire de la Révolution, c'est en fait l'histoire d'une série de complots et de révoltes. Révolte girondine, complot hébertiste, conjuration contre Robespierre, complot babouviste, et pour finir provisoirement, coup de force de Bonaparte. Mais ce premier complot, qui serait en fait dirigé contre leur personne, les révolutionnaires le présentent évidemment comme un complot contre le peuple. Et c'est là vraiment l'invention, c'est là vraiment le mythe. Le complot aristocratique, c'est le premier de ces complots imaginaires. C'est d'ailleurs le seul. Tous ceux qui suivront ne seront que des adaptations du complot aristocratique. Il est inventé par les députés du tiers et il est inventé dès 89. L'idée est très simple, c'est que les privilégiés, les aristocrates, veulent reconquérir leurs privilèges. Et ils veulent reconquérir leurs privilèges avec l'aide de l'armée et avec l'aide de l'étranger. Ils veulent, je cite, ces choses-là ne s'inventent pas, noyer dans le sang la légitime révolte du peuple. Le 13 juillet, un libelle révolutionnaire, La Quinzaine, écrit « Le bruit court que M. le prince de Condé doit réellement entrer cette nuit dans Paris avec 40 000 hommes pour massacrer peut-être 100 000 âmes. » Le lendemain, l'émeute prend la Bastille. Le lien entre le complot et le résultat est immédiat. Le complot aristocratique est une fable, évidemment, et même Georges Lefebvre, c'est tout dire. Même Vinocq l'ont reconnu. Vinocq dans cet immortel ouvrage paru en 1988 sur la Révolution. Mais la fable a été assez puissante pour mobiliser. Depuis le 14 juillet, la Révolution sait qu'elle ne peut pas se passer de complot et qu'elle ne peut pas se passer de la peur. Dès 89 d'ailleurs, dès cette période, chaque matin pratiquement en se réveillant, le citoyen parisien apprend qu'il se trame un complot. Le 28 mars 1790, la Chronique de Paris compte en une seule journée 6 conspirations successives. C'est évidemment un record. À la fin de 89, les Annales patriotiques, dans leur numéro 196, titrent « Nouveau complot découvert, les chevaux sont prêts ». C'était des chevaux pour emmener le roi en province. Le 12 avril 90, comme les députés de droite ont eu l'audace de se concerter, le lendemain, les 300 colporteurs de la Chronique de Paris annoncent dans Paris ceci: un nouveau complot est découvert. Le 18 juillet 91, Marat écrit dans le même fil: pendez, pendez, mes chers amis, c'est le seul moyen de faire rentrer en eux-mêmes vos perfides ennemis. Les complots contre le peuple, c'est évidemment ce qu'il y a de plus commode, c'est ce qu'il y a de plus confortable pour un révolutionnaire. Parce que les complots contre le peuple justifient tout. Évidemment, on exécute beaucoup plus facilement un ennemi du peuple. En outre, si on y met un P majuscule, c'est encore plus affriolant. On exécute beaucoup plus facilement un ennemi du peuple qu'un simple ennemi de la philosophie nouvelle ou un simple ennemi de Bailly. On devrait d'ailleurs plutôt le féliciter. Ou un ennemi du duc d'Orléans ou un ennemi de Robespierre. Et le complot, en fait, permet ce que Taine a appelé le brigandage philosophique. Il faut, écrira Billaud-Varenne, recréer, en quelque sorte, le peuple qu'on veut rendre à la liberté. Phrase magnifique. Évidemment, celui qui ne veut pas se laisser recréer est un ennemi du peuple, c'est un conspirateur dangereux. Et il y a là, c'est vrai, une conspiration, il y a une conspiration permanente qui est la révolte de la nature des choses. Et c'est pour les révolutionnaires une conspiration irritante et insistante. Comme le thème du complot rend des services inappréciables, tous les actes et toutes les paroles doivent accréditer l'existence de ce complot. Dès le début de la Révolution, dans les libelles de Marat, dans les lettres de Robespierre, le mot de conjuration se rencontre constamment. Avec d'autres mots qui sont significatifs. Je ne fais pas d'histoire quantitative, je ne compte pas les mots. M. Chaunu fait ça avec un beaucoup plus grand talent. Mais tout de même, on rencontre à chaque mot coalition, à chaque ligne coalition, collusion, faction, secte, traître. Et finalement, à force d'en parler, ils s'en convainquent et ils se prennent pour de saintes victimes. Robespierre écrit « Je soulève contre moi tous les amours propres, j'aiguise 1000 poignards, je me dévoue à toutes les haines, j'ai fait le sacrifice de ma vie. » C'est beau comme l'antique. Et alors la terreur peut naître, elle est justifiée par le salut public. Le salut public, c'est aussi une notion très précieuse. Et chaque fois qu'il faut assassiner, on y recourt précipitamment. Par exemple, Garnier de Saintes écrit au tribunal révolutionnaire de l'Orne ceci: « Vous voudrez bien juger dans les 24 heures ceux qui vous seront présentés et les faire exécuter sur le champ. Vous voyez que c'est pratique parce que le jugement, on invite au jugement et on indique la sentence d'avance. Et les faire exécuter sur le champ, la patrie réclame un grand exemple et le salut public le commande. Voilà. La première forme de la terreur, c'est évidemment immédiatement après le complot, l'insurrection populaire. En juillet 1789, la menace du complot aristocratique a suscité dans les campagnes la grande peur. La grande peur qui s'est achevée par l'incendie des châteaux, le massacre sélectif des notables et la distribution d'armes aux éléments les plus avancés des campagnes. Et c'est la même peur qui provoque l'émeute du 14 juillet. Pour abattre la royauté, Vergniaud accuse le roi d'être un comploteur, un agent de l'étranger. 3 juillet 92. Le 26 juillet, la législative proclame que la patrie est en danger. Alors on dresse dans Paris des tables pour inscrire les volontaires. Officiellement, les volontaires combattront les Autrichiens. En fait, les volontaires sont recrutés contre le roi. Le plus grand danger, ce ne sont pas les ennemis de l'extérieur, c'est l'ennemi de l'intérieur. Et on dit tout de suite aux jeunes qui s'inscrivent, commencez par vous débarrasser des gens de cour, des officiers nobles qui trahissent et des fanatiques qui sont de cœur avec l'ennemi. Sous prétexte de défendre Paris, dans la même perspective, on fait venir de province des gardes nationaux à qui est la Révolution. Le 10 août, la garnison des Tuileries est massacrée et le roi est en prison. Les massacres de septembre se déroulent exactement selon le même schéma. Les Austro-Prussiens ont passé la frontière. Ils progressent évidemment sans difficulté vers Paris, mais les nouveaux princes de la législative qui ont déclaré la guerre sont incapables de la mener. Ils rejettent les responsabilités sur les ennemis du peuple, et d'ailleurs le 28 août, 1792, Danton dénonce « Y eut-il à Paris 30 000 traîtres, il faut qu'ils soient arrêtés demain. » C'est d'ailleurs ce qui s'est fait. Le 2 septembre, Danton revient à la charge contre les ennemis de la patrie. Et ce même jour, 2 septembre, 114 prêtres sont massacrés au Carme. Il y a des bandes d'égorgeurs qui dépeuplent toutes les prisons. Le complot conduit ainsi d'un bout à l'autre aux trois points de la fraternité révolutionnaire, peur, terreur, horreur. C'est pourquoi il nous a paru significatif de choisir des documents sur des événements qui sont parus d'une part, qui sont survenus d'une part en 1789 et d'autre part en 1792. Quel texte est-ce que j'ai choisi? D'abord, le premier texte choisi pour la publication, c'est un document qui a été mis en ordre par Pierre de Witte en 1887 avec la collaboration du baron d'Auzère. Ce document a été mis en ordre à partir des papiers personnels de François de Douet, D-O-U-H-E-T, qui a été l'un des acteurs de l'événement. De quoi s'agit-il? Il s'agit des événements survenus à partir du 28 juillet 1789 en Limousin. Événements relevant de la grande peur. Le 28 juillet 1789, en effet, la peur se répand aux environs de Saint-Angèle, dans l'arrondissement du Sel. Des brigands arrivent. François de Douet est un ancien officier, il n'y croit pas vraiment, mais on le harcèle et surtout on lui annonce que les brigands ont probablement pris Saint-Angèle, qu'il faut aller à Saint-Angèle. Il y a des paysans, des voisins qui viennent le solliciter et finalement on part. On part et c'est le récit de cet événement que livre le document du baron d'Auzère. Arrivé à Saint-Angèle, Douet laisse ses hommes aux portes de la ville, et évidemment, l'expédition de François de Douet a quelque chose de sympathique et de folklorique, en ce sens qu'il a ses paysans, quelques voisins, un gentilhomme des environs, un ou deux, un notaire et un curé. C'est vrai qu'évidemment, c'est le fond de l'abomination, mais ça n'est tout de même pas terrifiant à première vue. D'où elle laisse donc cette redoutable phalange aux portes de la ville, et il va aux nouvelles. Dans la ville, en voyant la troupe arriver, on s'est ému. Alors François de Douai va sur la place, il y rencontre quelques personnes, on bavarde, on se rend compte que ce n'est pas un redoutable brigand, on se met à table et on commence à dîner. Il n'y a toujours pas de brigand. Mais des courriers sont partis de Saint-Angèle pendant ce temps-là pour dire que des brigands étaient aux portes. Et pendant que François de Douai dîne avec les gens de Saint-Angèle, arrivent les secours. Les secours, ce sont des gens qui ont été sollicités autour. Des espèces de Tartarins, il faut bien le dire, fortement bleus. Les secours surgissent, ils veulent trouver des brigands. Eh bien, les brigands, ça sera Douai et ses hommes. Les pages du baron d'Auxerre sur cette question sont peu connues et, en tout cas, elles sont fâcheusement négligées par l'historiographie. Je veux dire que cette absence de référence à ce récit est tout à fait désagréable pour les historiens de la Grande Peur, parce que les pages du baron d'Auxerre donnent un aperçu très net du développement de cette fièvre de la peur. Et des conséquences. L'imprécision de la rumeur, le rôle des courriers, très important, l'absence de cadres administratifs, car il faut bien dire qu'il y a un vide du pouvoir. Prenez, depuis quelques jours, on a tout de même pu prendre la Bastille, et ça se sait partout depuis le 17 juillet. On sait qu'on a pu prendre la Bastille, assassiner des officiers du roi, un intendant par-ci, un prévôt par là, et que rien n'a bougé. Alors, il y a effectivement un vide. Et tout cela apparaît dans les pages du livre, du récit du baron d'Auxerre. Le rôle des courriers, le trouble général, et puis surtout les distributions d'armes, parce que tout le monde s'arme jusqu'aux dents. La progression de l'affolement collectif est clairement rendu par François de Douai. Et il faut bien dire que le cas rencontré à Saint-Angèle me paraît très significatif. Naturellement, il y a eu l'épisode, si vous voulez savoir la fin, il faudra lire le livre, tant pis, mais l'épisode ne s'est pas trop mal conclu, il faut bien le dire. Mais, enfin, tout de même rapide, cet épisode ne doit pas en dissimuler un certain nombre d'autres. Je veux dire qu'il y a eu des épisodes beaucoup plus tragiques qui se sont en même temps abattus sur les provinces françaises dans l'été 89. Et curieusement, les historiens sont restés très longtemps évasifs à propos de cette grande peur. Michelet n'a consacré que quelques pages. Et pour lui, c'est très simple, mais vous savez, Michelet est surtout bon jusqu'à Jeanne d'Arc. Après, les choses se gâtent fâcheusement. Là, nous sommes vraiment au fond. Eh bien, Michelet a considéré que la grande peur, c'est la conquête des Bastilles provinciales. On avait conquis la Bastille parisienne, il fallait prolonger, et puis voilà. Taine s'y est intéressé, naturellement, en matière d'histoire, c'est tout de même plus sérieux, et il a décrit cette anarchie qui s'est répandue en France. Il a aussi montré qu'elle était le fruit de la dislocation générale de l'autorité. Il a montré qu'elle a engendré un retour à la barbarie. Il a discerné un déchaînement de passions méchantes dans ces insurrections populaires qui ont été entraînées par le dynamisme de l'action collective. Et puis il y a aussi Georges Lefebvre qui s'y est intéressé au point d'écrire un livre important sur la grande peur. Un livre considéré comme important, en tout cas. En fait, on peut penser qu'il y a eu des voix, comme l'a montré Georges Lefebvre, de la grande peur. On peut penser qu'il y a eu des voix de la grande peur, qu'elle s'est étendue, car Georges Lefebvre a présenté une carte, qu'elle s'est étendue à partir d'un certain nombre de points très précis, ça c'est possible. Il n'empêche que les résultats ont été simples. Il n'y a jamais eu de brigands et on a armé les foules, ce qui était le but de l'opération. Alors vous voyez, le texte du baron d'Auxerre m'a semblé très intéressant et c'est pourquoi je l'ai publié, parce que il reflète, j'ai évidemment ajouté des notes à celles qui existaient, parce qu'il reflète très fidèlement l'atmosphère qui résulte de la psychose ambiante. Et le texte permet d'entrevoir les ruptures qui se sont produites à ce moment-là dans la population rurale. Les deux autres textes que j'ai choisi de publier sont les textes de Journiac de Saint-Méard, d'une part, et de l'abbé de la Pise de la Pannonie. Journiac de Saint-Méard est un personnage curieux qui me fait penser à certains égards à Rivarol. Je veux dire que Journiac est vraiment un homme du 18e. Il est officier, il est imprégné des idées du siècle, il adhère d'ailleurs à la franc-maçonnerie, mais il n'empêche que Journiac est tout de même un officier fidèle. Et Journiac m'a intéressé également parce que c'est un personnage qui a été mêlé aux événements de l'après-révolution et de la révolution. D'abord, il a été mêlé à la révolte militaire de Nancy en 90. Il s'est retrouvé tout d'un coup à la tête des mutins de Nancy. Alors qu'il ne veut pas une âme de mutin à première vue. Il s'est retrouvé à la tête des mutins de Nancy par la force des choses, je veux dire que les mutins l'ont forcé à prendre leur tête pour aller délivrer des camarades. Et aussitôt qu'il en a eu l'occasion, il s'est sauvé. Mais alors, si vous voulez, l'aventure est tout de même extraordinaire dans son genre. Et puis, Journiac rentre à Paris en ayant idée d'ailleurs d'émigrer le plus tôt possible avec des camarades du régiment auquel il appartenait. Et il rentre à Paris et se déchaînent les événements d'août 92. Et alors Journiac, qui avait un franc-parler, Journiac se retrouve incarcéré. Il est incarcéré, il subit un moment extrêmement désagréable à la mairie, et surtout il est transféré à l'abbaye. Et Journiac se trouve arrêté le 22 août 92 sur dénonciation, il est transféré à l'abbaye, et il va passer devant le tribunal des hommes de Maillard. Entre son arrestation et le 2 septembre, il a vu l'atmosphère. Il a aperçu les héros de l'affaire. Journiac présente cette autre particularité que, passant devant le tribunal de Maillard, dont il reflète l'ambiance, qui a été le fond de l'horreur, il faut bien le dire, et le texte de Journiac est à cet égard extraordinaire, parce que il est à la fois d'une grande simplicité, mais c'est un révélateur. Eh bien, Journiac déclare à ce tribunal qu'il est... On lui demande, mais enfin, qu'est-ce que vous êtes? Quelles sont vos opinions politiques? Il répond, je suis franc royaliste. Et paradoxalement, on le libère. Il est acquitté. Il est acquitté dans la nuit du 3 au 4 septembre. Et le 15 septembre, j'insiste bien sur la date, le 15 septembre, donc 11 jours plus tard, il remet un manuscrit important à De Seynes, qui est libraire éditeur au Palais Royal, qui s'appelle « Mon agonie de 38 heures ». Et c'est ce texte dont je vous propose l'édition. Il est évident que c'est... Nous avons choisi ce document, c'est vraiment le reflet de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le propos de Journiac, le manuscrit a été rédigé sur le champ, Il n'y a pas dans le propos de Journiac de projet de rodomontade. Il ne veut pas se disculper, il n'a à se disculper de rien. Il ne veut pas se faire valoir. Il veut simplement dire ce qu'il a vécu. Et il faut reconnaître que Journiac, là encore, est un personnage attachant, parce que faire cela en septembre 92, cela relève pratiquement de l'inconscience. Eh bien, malgré tout, il a donné son manuscrit et il est resté à Paris après cela. Et c'est un personnage extraordinaire à bien des égards. C'est un homme du 18e avec une espèce de, ce n'est pas une intelligence spéculative. Ça, il faut bien lui rendre cette justice. Il a été convaincu d'un bout à l'autre de la Révolution que s'il faisait quelques mots d'esprit, à la mode de Rivarol ou de Voltaire d'ailleurs, on résoudrait la question politique. Enfin, que la question politique, c'était une histoire de bagarre. Enfin, pas d'un bout à l'autre de la Révolution, mais jusqu'en 92, il a été convaincu que tout ça, ce n'était que fumisterie et plaisanterie, et que si on répondait sur le même ton, sur le ton badin, en se moquant des adversaires, ça suffirait. Voilà, j'ai fait quelques bons mots et ça suffit. Bon. Donc ce n'est pas une puissance spéculative de choc, il faut bien le reconnaître. Malgré tout, Journiac est un homme du 18e, car il raffole des bons mots, et puis il a, même à l'égard de sa propre vie, une espèce de désinvolture. Il faut reconnaître qu'il a tendance à jouer de tout, mais aussi de sa vie, ce qui lui donne un détachement extrêmement, extrêmement sympathique. Et Journiac reste, finalement, à Paris, sous l'Empire, il continue à fréquenter les gens de lettres, il se produit beaucoup dans le cadre du Palais Royal et il se déclare lui-même président et général en chef de la Société des Gommes-Mouches. Et il distribue des diplômes de Gommes-Mouches à tous les gens qui fréquentent le Café de Valois au Palais Royal, se moquant de l'Empire, de la République et des Jacobins chaque fois qu'il en a l'occasion. Alors, mais tout de même, il a été franc-maçon, la chose est entendue. Il a été très désinvolte à l'égard de bien des choses, c'est vrai. Mais tout de même, lorsqu'en 1815, Bonaparte envisage de revenir, eh bien, il court s'engager comme volontaire royal. Seulement, il n'a plus l'âge et il est obligé de s'abstenir. De toute façon, la chose se termine assez vite, grâce à Dieu. Alors, la suite de sa vie n'est pas passionnante, en ce sens que c'est une série d'invectives et de négociations pour obtenir une retraite. Parce que tout de même, là encore, il est très homme du 18e, ce n'est pas un homme d'administration. Alors, ces histoires de papier ont dû l'empoisonner prodigieusement, et tout d'un coup, et on en connaît d'autres, c'est peut-être même un côté universitaire de Journiac, celle-là furieusement empoisonné, et tout d'un coup, il se rend compte que finalement son patrimoine s'est amenuisé et qu'il serait peut-être opportun de demander une pension. Et alors, quand il va réclamer une pension, on lui dit « Ah, mais monsieur, vous n'avez pas émigré. Alors, la pension de colonel à laquelle vous pourriez aspirer, non, ça ne va pas, ça ne serait pensable que si vous aviez émigré. Vous n'avez pas émigré, les bureaux... » Alors, je suis allé aux archives de Vincennes, je donne les références, j'ai trouvé le dossier, et il y a des réponses entre Journiac et l'administration qui sont extraordinaires, parce que c'est le ton de Courteline. Et Journiac les publie d'ailleurs après ces échanges. Et finalement, il a réussi à passer au-delà des scribes, enfin même scribes de premier plan, et pour arriver au roi, et finalement, on lui a obtenu une pension qui lui a tardivement, finalement, garanti ses vieux jours. Voilà le témoignage de Journiac. C'est un témoignage, je le répète, qui est très attachant, parce que c'est un témoignage qui est rendu tout de suite, sans manipulation, sans chercher à tripoter le texte, si vous voulez, pour aboutir à se présenter comme ce qu'on n'était pas. Et c'est un témoignage qui est marqué par l'espèce de fraîcheur d'âme de Journiac. Il dit tout. Il dit tout. Il a eu 50 éditions au cours du 19e siècle, enfin du vivant de Journiac. Il a eu 50 éditions et il a été repris partiellement par la suite par Georges Lenôtre au début du 19e siècle. Et depuis, il n'est plus jamais reparu. Je ne pense pas qu'il serait reparu si nous nous en étions pas mêlés, à franchement parler. car ce texte est accablant. Accablant, enfin, il ne veut pas être un réquisitoire, mais justement, c'est la vérité. C'est la vérité toute crue. Et vérité, je me suis efforcé de vous le montrer dans les notes, vérité qui recoupe les autres témoignages dont on puisse disposer. Enfin, alors, naturellement, je viendrai tout à l'heure aux problèmes historiques que recouvre cette affaire. Enfin, il y a le problème, le texte de Lapis de la Pannonie. Le texte de Lapis de la Pannonie a été évoqué plusieurs fois au XIXe siècle. Il a été évoqué plusieurs fois, mais il n'a jamais été publié in extenso. Il n'a jamais été publié in extenso. Il a même été, les publications qui ont pu en être données ont été très souvent victimes d'interpolations. On a ajouté des choses et bien. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un prêtre qui était né en 1761 dans le Lot, qui appartenait à une famille nombreuse et une famille ancienne, et qui s'est retrouvé au mois d'août 1792 à Paris. Et là, évidemment, à partir du 10 août, pour un prêtre qui n'avait pas prêté les serments de rigueur, la situation était plus qu'inconfortable. Il est incarcéré, enfin il est retenu au Carme, et il nous raconte les circonstances de son arrestation et de son incarcération. Au moment du massacre, l'abbé de la Pannonie était aux côtés de l'archevêque d'Arles, Jean-Marie Dulot. Jean-Marie Dulot a été la première victime de cette tuerie spontanée. Et le texte de la Pannonie est très attachant parce que, justement, il était à côté de lui et il donne un récit très précis de la mort de Monseigneur Dulot. Récit qui révèle à l'occasion, d'ailleurs, la dimension de la spontanéité du mouvement. Puisque les assassins sont arrivés avec une liste de victimes. Et en tête de la liste, il réclamait Monseigneur Dulot. Seulement, comme on n'avait pas fait de dessin, et qu'en outre, distingué pour le jacobin de base, de cette catégorie d'ailleurs avait été recruté plutôt dans les garçons bouchers, un archevêque d'un simple clerc, c'était difficile. Si bien qu'ils ont d'ailleurs voulu commencer par tuer la Pannonie. Et Dulot a dit « Non, non, c'est moi ». Évidemment, sur la suite, il n'y a pas à insister. Alors, le témoignage est intéressant. La Pannonie a vécu une aventure extraordinaire, puisque finalement, il a réussi à s'échapper. Il a reçu plusieurs coups de pique, mais un garde national l'a aidé, on ne sait pas très bien pourquoi. Et il a été recueilli par une famille du quartier. Famille qui était d'ailleurs plutôt portée sur la Révolution. On l'a soigné et finalement il a réussi à partir à Londres. Et alors là, évidemment, l'aventure est intéressante puisqu'il a rencontré l'abbé Barvel, qui était à Londres, l'ancien jésuite, personnage qui avait combattu l'esprit philosophique dès avant la Révolution. Et Barvel préparait à ce moment-là une histoire du clergé pendant la Révolution. Alors, il a récupéré tous les témoignages de clercs qui échappaient à Paris à ce moment-là. Il avait déjà eu recours à l'abbé Bardi et puis à Boulanger. Et évidemment, il a été très heureux de rencontrer l'abbé de la Pannonie. Il faut bien se mettre à sa place. C'était un témoignage inégalable. Et c'est quelque temps après son arrivée que... Le récit de son incarcération et du massacre de ses confrères a été rédigé par la Pannonie. Après le concordat, l'abbé de la Pannonie est rentré en France. Il a été nommé aumônier du lycée de Cahors et il est mort en 1835. Alors, évidemment, là, le manuscrit de la Pannonie n'a pas été très, très facile à trouver. En tout cas, sachez qu'il n'a reçu jusqu'à présent... aucune édition sérieuse. ça c'est certain, il a été simplement photocopié une fois en 1913. Voilà le témoignage. Alors, il est certain que ces différents textes ont été choisis, je vous ai dit, pour quelle raison ? Parce que j'ai trouvé que leur qualité était indiscutable. Dans les deux cas, ils sont rédigés tout de suite après l'événement. Dans les deux cas, les auteurs ne sont pas promis à une carrière brillante, d'ailleurs ils ne la cherchent pas. Et dans les deux cas, les témoignages sont recoupés. Donc, au point de vue scientifique, ils sont absolument de premier plan. Enfin, ils ont été peu publiés. J'ai pris pour Journiac l'édition Princeps, donc indiscutable, alors que les éditions qui ont suivi tout de suite après ont été plus ou moins manipulées par les éditeurs. Journiac ayant à cet égard une superbe indifférence. Et là, nous avons l'édition Princeps, et pour la Pannonie, nous avons le texte, le manuscrit lui-même que j'ai eu entre les mains. Par conséquent, ce sont des éditions, c'est la vérité, si vous voulez. Nous, on n'a pas d'ailleurs à prendre parti. C'est très simple, on n'est pas pour ou contre, on est simplement pour la vérité. Et ces documents expriment la vérité, c'est pourquoi, je le répète, ils sont naturellement éludés par la plupart des historiens contemporains, considérant d'ailleurs que ce sont des témoignages peu sérieux. Alors, ces textes posent évidemment un certain nombre de problèmes historiques, qui sont l'objet de débats interminables entre les historiens. Il y a la question de la grande peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la grande peur s'est développée dans ces conditions-là. Quant au massacre, il pose évidemment des problèmes auxquels ces textes peuvent partiellement répondre. La question de la spontanéité ou de la non-spontanéité, et la question des complicités ou des hostilités. Donc ces textes sont d'une importance capitale. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous les présenter. Je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur le Président. Exactement. Oui, c'est extrêmement curieux. Ce que vous dites, Monsieur le Président, est très juste. Il y a dans les mémoires de Barnave, mais il y a d'autres témoignages, en particulier de gens de la région du Limousin, qui sont revenus de Paris en disant qu'il y avait un plan prévu. Et en particulier le comte des Rois, qui avait la garde nationale, qui commandait la garde nationale de Limoges, et qui a dit il y a un plan prévu pour armer les gens. Alors, naturellement, ça, là-dessus, il est certain que les résultats ont été très parfaitement obtenus. En outre, les révolutionnaires y avaient le plus grand intérêt, puisque cela coupait la population en deux. Alors, là-dessus, oui, dans la région, il y a des choses intéressantes. C'est-à-dire que le comte des Rois, donc, justement, dit qu'il y a des courriers qui sont venus de Ruffec et Ruffec, que Georges Lefebvre, d'ailleurs, indique comme centre de dispersion. Mais Georges Lefebvre était un grand honnête homme, naturellement. Enfin, il était jacobin jusqu'aux oreilles. Il fallait surtout évincer l'hypothèse selon laquelle on risquait d'accréditer un complot. Alors, le comte des Rois indique très précisément qu'il y a des courriers qui sont venus de Ruffec et qui sont allés répandre dans la région que des brigands arrivaient. Il y a des postillons qui sont arrivés et, voilà, à partir de là, la rumeur s'est répandue et on a guetté les brigands. Alors, seulement, voilà, vous avez tout à fait raison. Georges Lefebvre, il a certainement raison, il a fait des recherches très attentives. Et il a expliqué que c'était passé d'ouest en est, que la grande peur s'était diffusée d'ouest en est. Seulement, le détail est que si vous comparez la carte de Georges Lefebvre à la carte de l'implantation des loges et des sociétés de pensée en 1789, carte qui a été dressée, et qui d'ailleurs, enfin, c'est pas un mystère, on constate que justement, curieusement, tous ces centres indiqués par Georges Lefebvre, qu'il s'agisse de Ruffec, qu'il s'agisse de Clermont, et d'autres ou autres régions, tous ces centres sont des centres où il y a une très forte implantation de loges et de sociétés de pensée. Alors, ce qui, si vous combinez les deux éléments, on en arrive à, on revient à l'analyse du Conte des Rois, enfin au témoignage du Conte des Rois. Il a suffi que de Paris, on envoie des postillons à Ruffec. Les transports marchaient d'ailleurs bien sous l'Ancien Régime, où on ne demandait pas son avis à la CGT pour se transporter. Et finalement, la chose allait assez. Les transports pouvaient arriver assez rapidement de Paris à Ruffec, et à partir de là, et d'une chaîne, en fait, de loges ou de sociétés de pensée, diffuser la peur. Comment ? Après, ça s'est fait tout seul. Enfin, il était évident qu'à partir de cet instant-là, il suffisait d'intoxiquer l'opinion à Ruffec, à Clermont et ailleurs pour que la chose se proclame. Du coup, et d'ailleurs, il y a une autre explication, du coup, la chose avait l'air naturelle et elle avait l'air, comme il y avait simplement un postillon qui était parti dans chaque direction, la peur avait l'air effectivement de venir de province. Alors, il y a cette affaire me fait penser à autre chose, évidemment, la diffusion des lettres et des motions qui s'étaient passées à la fin de 88 et que nous avons évoqué les uns et les autres au colloque de l'Institut Saint-Pilis, les correspondances qui se sont produites en 88 vers Paris dans selon les mêmes voies, car ce sont des mêmes centres qu'elles sont parties, comme par hasard. Comprenez ? Alors, la naïveté, moi je suis bien que, je le répète, Georges Lefebvre est un républicain, donc il est honnête, ça va sans dire, mais enfin, tout de même, là qu'il est ignoré cette activité grouillante des sociétés dans les points d'où part la grande peur, c'est tout de même étonnant, les plombs ont dû sauter. Madame. Oui, madame, vous avez raison, il est certain que les voies de la subversion sont toujours les mêmes. Et dans la mesure où elles sont efficaces, vous pouvez être tout à fait tranquille, vous retrouverez les mêmes procédés, c'est très vrai. Je ne doute pas qu'en plus, les ennemis soient vraisemblablement les mêmes dans les deux cas. C'est évident. Il n'est peut-être pas totalement exclu, d'ailleurs, que ces procédés aient été consciemment repris par des gens qui en savait l'usage de naissance. Il est évident que tout ça s'est passé en 3 jours d'écart, en fin de compte. Mais on peut très bien dire, à partir du moment où il y a un petit jeu, parce que la rumeur ne va pas à la même vitesse partout, on peut très bien dire, vous voyez, c'est spontané, puisque ça n'est pas exactement à la même date partout. Il n'empêche que ça s'est trouvé effectivement au moment des marchés, et certains témoins du Limousin le disent.
Ah oui.
Oui, parce que c'est quand le postillon arrive, quand il y a le marché, de cabaret en place de marché, il est certain que c'est là que tout se passe, vous comprenez.
Voilà.
Et oui, livre ça à vos méditations, j'ai cherché partout, je ne sais pas ce que veut dire TLG, mais son grade était TLG. Et c'était un grade important, car on suit, à travers les listes annuelles de la franc-maçonnerie, la progression maçonnique de Journiac. Indiscutablement, c'est un personnage qui a été mêlé de très près à la maçonnerie militaire à Nancy. Ça, c'est absolument certain. Il y a une bizarrerie, c'est que Maillard, responsable du tribunal, était maçon aussi.
Alors, comment expliquer cela ?
Ben, comment expliquer cela ? Je n'en sais rien. Alors, je vais même apporter de l'eau à ton moulin. Tu vois, comme je suis libéral et tolérant, comme toujours. qui pirait pour Journiac dans sa carrière maçonnique ? C'est qu'au début, il s'agissait d'une loge écossaise. Et il a contribué à faire passer cette loge sous la tutelle du Grand Orient, donc rationaliste, etc. Donc, on peut dire que vraiment, il a été mêlé jusqu'aux oreilles à cette affaire-là. Bon.
Et donc,
il était du mauvais côté.
Et il est bien introduit au problème.
Exactement. Exactement. Et il a même... Enfin, il y a encore plus beau. Il a collaboré à un ouvrage avec 2 autres officiers de Nancy, également maçons, car toutes ces listes sont publiées. Il a collaboré à un ouvrage sur Mesmer. Bon, seulement, ce qui l'a refroidi, je crois, à mon avis, il a rompu avec ces affaires-là, probablement autour de l'affaire de Nancy. Parce que là, ça n'est quand même pas passé loin. Il n'a pas pu ne pas remarquer que les la discipline dans l'unité où il se trouvait, car tout de même des loges maçonniques dans les unités militaires, ça n'est pas recommandé, il n'a pu que constater que la discipline était complètement, c'était complètement délité. Ça, il n'y a plus rien. Bon, rien. Et les soldats, se considérant comme les égaux des officiers, l'ont porté à la tête de l'émeute. Bon, après ça, quand il a déserté, ils l'ont condamné à mort. Enfin, c'était tout de même très sérieux. Et là-dessus, il est rentré à Paris, il a démissionné, et son idée était de partir dans l'émigration. Il attendait deux autres camarades pour partir dans l'émigration, où là, alors, il n'était plus question de ces histoires-là, ou du moins, c'était des souvenirs. Et j'ai eu l'impression que À partir de ce moment-là, il n'est plus question de rien. Il arrête. Bon, quand il écrit quelque chose, ce sont des fantaisies, car il continue à faire des bons mots. Enfin, c'est bon.
Mais
c'est très rivarolien. Enfin, c'est des bons mots. Bon, mais c'est tout. Il n'est plus question nulle part d'affiliation maçonnique. Ni, il ne se manifeste pas. Il n'écrit pas sur des thèmes chers aux maçons, par exemple. Il est possible qu'il ait rompu. En tout cas, il a vécu... L'Empire est une grande période de maçonnerie. Il a vécu l'Empire très difficilement.
Il n'a pas de problème dans son témoignage.
De la maçonnerie?
Oui.
Non.
Non. Il y a quand même, je dirais, la loi, j'allais dire, du milieu.
Oui, oui, il y a ça. Bien sûr, oui. C'est vrai, il y a une espèce de loi du silence, mais j'ai l'impression quand même que cette histoire de maçonnerie à Nancy, c'était l'occupation de gens qui s'ennuyaient. Il y a ça aussi, enfin je ne souscris pas aux thèses d'Agulon, certes, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose, une espèce de cercle, une mode. C'était l'occasion de se retrouver. Ah ben c'est-à-dire que, naturellement, les gens qui étaient dans la maçonnerie, simplement parce que c'était la mode, en réalité, qui sont tout de même coupables, parce que c'est un mouvement vite, c'est sympathisant. Et bon, mais ces gens-là ont été horrifiés par les premiers événements, et à partir de ce moment-là, ils ont considéré leur adhésion à la maçonnerie comme une plaisanterie, à côté de la réalité, qui, un jour ou l'autre, ils se trouvaient nez à nez avec des types à pic. On est passé de l'homme à phrase à l'homme à pic. Ces gens-là ont considéré que c'était comme s'ils avaient adhéré à un club littéraire, que ça n'avait pas plus d'intérêt. Bon, mais alors, il y a surtout, et naturellement, dans le réseau maçonnique, il y a ceux qui comptent, ceux qui appartiennent à la vraie hiérarchie, à ceux qui ont monté le coup avec Philippe d'Orléans. Ça, c'est une autre catégorie, c'est vrai. Journiac n'en faisait évidemment pas partie.
Oui, alors, Louis Fass.
Non, moi, le fait, évidemment, Philippe d'Orléans était en lui-même. Il aurait eu la position d'un Lafayette, par exemple. Par sa naissance, son activité aurait été nulle et non avenue. Il serait probablement promené, lui, avec un Esquimau, et puis, bon, ça n'aurait pas été très grave. Mais sa position change tout. Sa position, sa fortune et son entourage. Tout de même, il y a la famille de Jean Lys, il y a la Clos, et puis il y a Montmorency-Luxembourg, qui lui aussi ne brillait pas par l'intelligence. Même. Montmorency-Luxembourg, il paraît que c'était tout de même pas un foudre non plus. Mais enfin, il y avait tout de même le réseau qui comptait. Alors là, le cas Mirabeau, qui a écrit un plan maçonnique de sa main, enfin tout de même, il y a le paradoxe de Chaussinant-Nogaret qui énonce partout que Mirabeau n'était pas maçon. Bah, c'est tout de même, et c'est pas parce qu'on ne trouve pas son nom dans les listes maçonniques qu'il n'est pas maçon, justement. Enfin, je le dis très librement parce que je l'ai dit à Chaussinant-Nogaret, donc... Ah non. Ça, je suis absolument certain. Louis XV exécrait la maçonnerie et il a fait initier de son chef Villeroy pour savoir ce qui s'y passait. Villeroy était répugné à cette opération. Il a accepté parce qu'il était fidèle à son prince. Et quand il a atteint un certain stade, il est parti. Mais alors, Louis XV, sur la maçonnerie, a une vision qu'on peut considérer comme fausse, c'est possible. Je veux dire que, en fait, celui qui a lutté le plus efficacement contre la maçonnerie, ça a été Fleury, qui lui aussi exécrait la maçonnerie. Mais la maçonnerie n'était pas la même avant 72 et après. Avant 72, c'est une association de buveurs, de jouisseurs, de gens qui ne présentent pas en fait beaucoup d'intérêt. Et aux yeux du roi, il ne faut pas perdre de vue, monsieur, que aux yeux, c'est une période où vous avez toute une série de sectes farfelues qui pullulent à Paris. Alors, aux yeux du roi, c'est tous ces types avec des grades exotiques, plus ou moins puisés dans l'histoire des Hébreux, c'était des tordus, vous savez. Enfin, je veux dire, je m'exprime de façon un peu abrupte, mais c'était des gens, c'était des farfelus. Alors, ça n'avait pas, c'était des farfelus qui n'avaient pas d'autre souci que de boire et de se retrouver entre eux. Ça ne présentait aucun intérêt. Et il n'a pas, peut-être pas vu ce qui pouvait, les potentialités de la maçonnerie en matière de désordre, mais il s'en est tenu là. Ça n'est pas très grave. En réalité, laissons-les faire. Que la même position soit adoptée par la monarchie au-delà de 1772, c'est beaucoup plus dangereux, en revanche. Quant à l'initiation de Louis XVI, monsieur, je n'y crois pas personnellement, mais enfin, Louis XVI n'aimait pas les maçons. Il avait toute une série de faiblesses par ailleurs, mais je ne crois pas qu'il ait eu celle-là. Et simplement, on n'avait pas, probablement par référence aux trois frères de la Maison de France, appelé une loge, la loge des les trois frères réunis. Bon. Mais c'est tout, ça n'engageait pas Louis XVI. C'est une loge militaire de Versailles qui s'appelait les Trois Frères Réunis. Mais on a les listes de la loge en question, il n'y a pas de trace qu'il y ait eu Louis XVI. Vous comprenez ? Il y a une ambiguïté autour de ce évidemment. D'autre part, il est vrai que Louis XVI fréquentait des maçons à la cour, naturellement. Il a eu tort, je suis bien de votre avis. Il aurait mieux fait d'en incarcérer deux ou trois, ça aurait calmé les autres. Mais enfin, c'est un fait. C'est selon, enfin, ça cas par cas, ça dépend, vous savez. Ça n'est pas une attitude uniforme. Moi, je crois sur son appartenance à la maçonnerie, non, il est vrai que... Mais alors, en revanche, alors ça, on peut dire évidemment de façon très nette que Louis XVI, contrairement à Louis XV, n'était pas pieux, qu'il n'y avait pas de crucifix dans sa chambre, qui n'avait pas de dévotion particulière et qui n'aimait pas la dévotion. Ça, c'est vrai. Que d'autre part, Louis XVI a été très brutal avec Monseigneur de Beaumont, par exemple, quand au début de son règne, alors que Monseigneur de Beaumont était un des défenseurs les plus acharnés de l'authenticité de la foi catholique, Louis XVI a été très dur avec lui, il l'a menacé de le renvoyer en exil. Bon, ce n'était pas très catholique, il faut bien le reconnaître. Et puis, mais malgré tout, Louis XVI meurt quand même pour la foi. Il y a eu une conversion de Louis XVI, indiscutablement, en 92. Vous comprenez ? En 91-92. D'ailleurs, il l'a écrit. Il l'a écrit à l'époque, hein, Monseigneur Dulot. Et son testament, d'autre part, indique bien qu'il s'est rendu compte qu'il avait trop laissé faire, il avait trop donné aux philosophes de son intelligence et de son esprit. Ça, il s'en est très bien rendu compte. Mais c'est pourquoi, en raison de ses lettres et de son attitude ultime, puisqu'au fond, la monarchie est tombée, pour la monarchie catholique, c'est finalement magnifique, il est tombé sur la foi. Non, mais vous comprenez, tout de même, monsieur, il aurait, on ne peut pas refaire l'histoire, mais il aurait cédé aux demandes qui lui était présenté, il aurait gagné du temps, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse en dire. Tandis que là, comme il n'a pas voulu céder, la journée du 20 juin est caractéristique, et la journée du 10 août est après tout une reprise de la journée du 20 juin, avec des motifs plus politiques, mais tout de même, eh bien, il n'a pas cédé non plus, et évidemment, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Ah, s'il avait été Saint-Louis, c'est sûr. Mais, non mais ça, j'entends bien, il ne l'était pas. Mais néanmoins, il faut lui rendre cette justice que Louis XVI, tout de même, a voulu être sacré. Eh bien, Turgot lui disait que ça coûtait trop cher. Or, tout de même, le fait d'être sacré, c'était un engagement, d'autant qu'il l'a pris très au sérieux. Hein. Enfin, vous comprenez, le Christ est le libérateur, et c'est dans les oraisons du sacre, et il y souscrit, indiscutablement, il le voit avec beaucoup de gravité. Il l'a voulu, le sacre. Moi, je me réjouis pour lui qu'il ait été roi catholique, madame, et même que Charles X ait été sacré. Mais il faut bien reconnaître qu'il avait la possibilité, selon certes les voix qu'on lui soufflait, d'ailleurs parce que Voltaire, par exemple, appréciait au superlatif Frédéric II de Prusse, jusqu'au moment où Frédéric, aussi longtemps que Frédéric II lui réglait ses frais de voyage. L'idée du despotisme éclairé était très, très admise, par conséquent. Et il y avait d'ailleurs tout un courant dans la monarchie française, malheureusement, il faut bien le reconnaître, parmi les juristes en particulier, ce qui aggrave nos cas, qui le poussait dans cette voie-là.
Il fallait un certain courage pour
maintenir
cette position.
Oui, auquel cas, il aurait annoncé à la terre entière que il ne se faisait pas sacrer, que ses références étaient plutôt les Lumières. Vous savez, il serait peut-être passé à côté de cette histoire-là. Moyennant quoi, c'est lui qui tuait la monarchie française, c'est vrai.
C'est ça.
Oui, non mais...
Non, c'est ça,
certes,
c'est ça.
Certes,
c'est
bien sûr.
Ça, en fait, la monarchie française, les vocations étaient catholiques.
Ah bah, depuis Clovis. Depuis Clovis.
Je voudrais revenir à l'Apisia Pannoni. Vous nous avez dit que Barbuel s'en était servi. Vous nous avez dit que le texte n'avait jamais été publié de façon intégrale. Alors, où l'avez-vous trouvé, vous ?
Ah, ben voilà. Moi, je l'ai trouvé. Ça a été un peu le fruit du hasard, et puis aussi de quelques recherches. Je savais qu'il avait été déposé par Monseigneur de Teille à la bibliothèque de l'école Sainte-Geneviève. Bon, mais alors, et il était précisé que la bibliothèque de l'école Sainte-Geneviève était à côté du Panthéon. C'est pas la bibliothèque, c'est l'école. Bon, or, l'école Sainte-Geneviève a disparu. J'y suis allé, j'ai trouvé, c'est la maison des spiritains. C'est Rulot, non, c'est la maison des spiritains. Bon. Et alors, j'ai trouvé là, d'ailleurs, un prêtre en battle dress, enfin, très sympathique, qui m'a dit, et casquette, qui m'a dit que c'était une très bonne idée de parler de la Révolution. Je le lui enverrai, d'ailleurs, ce livre, parce que, tout de même... qui m'a expliqué que l'école Sainte-Geneviève avait déménagé depuis 1913, et qu'elle était à Versailles. Bon. En fait, à Versailles, elle n'y était plus, les documents n'y étaient plus, et je me suis retrouvé à Montrouge, qui abrite toute une série de maisons très honorables, et avant, à côté de Montrouge, et il y avait là où il y a le dépôt des archives des jésuites. Et les jésuites ont été très aimables, enfin, je ne sais pas si pour les prochaines publications ils le seront autant, mais ils ont été très aimables et j'ai trouvé, alors l'intérêt est l'émouvant, d'ailleurs j'ai récupéré d'autres documents, enfin j'ai fait photographier par les jésuites, très aimables, ils ne savaient pas que c'était... j'ai fait photographier par les jésuites d'autres documents qu'on pourra éventuellement publier, ce sont les papiers de Barvel. Car les papiers de Barvel ont été rapportés par la Compagnie de Jésus au XIXe siècle, utilisés par Monseigneur de Teille à propos du procès de canonisation de béatification des victimes de septembre. Alors il y a un dossier. C'est un carton, non ? C'est un carton qui est grand comme ça.
Ça n'était pour la réédition de Barvel, ça n'a
pas. Non. Des minimis non curat praetor. Mais non, alors non, mais alors là, dedans, il y a. Alors j'ai trouvé le dossier, donc, enfin c'était assez émouvant, le papier même de la piste de la Pannonie, toute une série de documents de prêtres, qui d'ailleurs curieusement ne sont pas indiqués par Pierre Caron dans sa thèse sur les massacres de septembre, toute une série de témoignages de prêtres sur ce qui s'est passé en France, en particulier dans la Compagnie de Jésus. En 1792. Alors ça, il est évident que ces témoignages se recoupent, il faudrait... J'en ai photographié deux, sur lesquels nous nous sommes déjà arrachés les yeux, et qui sont très intéressants, oui. qui sont totalement inédits. Alors.
Et qui posent des problèmes.
Oui.
Car ça ouvre des horizons sur une préparation
Oui. Oui, oui. Ah, c'est très, c'est, ce sont des papiers très intéressants. Mm-hmm. Alors, le, voilà, enfin, si vous voulez, l'histoire est un peu... Alors, le manuscrit est toujours chez les jésuites, mais j'ai pu... J'ai, donc là, je suis absolument sûr de l'édition fournie, si vous voulez, en l'occurrence. Enfin, il n'y a pas, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il y a une lettre de Monseigneur de Teil que j'ai recopiée, qui est quelque part, mais que je ne l'ai pas fournie parce que ça ne présentait pas beaucoup d'intérêt, mais qui se souciait de la, de la, de la bonne arrivée des documents qu'il avait envoyés.
Daniel.
Oui, madame.
Si de telles possibilités, avoir des dossiers du côté des francs-maçons sur, la, sur les documents.
Non, madame. C'est, bah, je, un peu, peut-être quand on est initié à un très haut grade, moi je ne le suis pas du tout, mais on peut tout de même, on peut avoir accès à des documents de la maçonnerie. Vous savez qu'il y a un fonds maçonnique à la Bibliothèque nationale, au manuscrit de la Bibliothèque nationale, qui est très accessible. Moi j'ai vérifié, oui.
Il y a même une chaire, je crois, à l'Université de Rennes.
J'ai entendu ça, effectivement.
Oui. Ah, ben, sur les grands...
Mais alors, voyez-vous, seulement, vous ne trouvez rien. Moi, je vous dis, j'ai trouvé les listes des sociétés, des loges militaires. Bon, c'est évidemment, j'ai trouvé les listes, mais je n'ai trouvé que les listes. Et c'est toujours pareil dans les, tous les papiers vraiment intéressants n'y sont pas. Vous avez à la Bibliothèque nationale, et il n'y a même plus besoin d'avoir, enfin pour ces papiers-là, il n'y a pas besoin d'avoir d'accord particulier. Pour d'autres, il faut l'accord du Grand Orient, bien entendu. Bon. Je n'avais pas besoin de me, d'aller me heurter à ce refus, parce que, en l'occurrence, la chose était très, très accessible. J'ai fait un bulletin, comme tout le monde, et j'ai eu les dossiers sous le nez. Avec, simplement, alors, la liste, la loge, état de la loge, à telle date. Et c'est comme ça que j'ai pu suivre la progression maçonnique de Journiac. Donc j'en suis absolument sûr. Mais il n'y a pas une ligne de plus. Vous n'avez pas un mot sur... Alors, c'est pourquoi on peut écrire des romans feuilletons sur ce qui s'est passé dans les loges, vous comprenez. Il n'y a pas de procès verbal, ou en tout cas, ils ne sont pas joints, évidemment. Donc, vous ne pouvez absolument pas, vous ne pouvez pas tirer d'autres conclusions, mais ça peut être très riche tout de même, que celle-ci, M. Chose, était bien franc-maçon à telle date. Voilà, c'est tout. Oui, bon. Non, en tout cas, les papiers ont été évidemment repris en 45, en laissant la franc-maçonnerie, laissant ce qu'elle voulait laisser. Voilà exactement ce qui s'est passé. Alors, elle a laissé les papiers non compromettants du 18e. En réalité, d'ailleurs, après les différentes fouilles de l'Empire, qui était très maçon, puis de la République de Louis, de la monarchie de Louis-Philippe, il est évident que, et il ne pouvait plus y avoir grand-chose de très intéressant pour les chercheurs, vous comprenez bien. Le seul point est que nous pouvons tout de même établir des listes, des comparaisons, par exemple, entre les personnes arrêtées, c'est ce que nous avons fait pour la plupart d'entre nous, lors des émeutes de 88 et de 89, et les listes de la franc-maçonnerie. Ça, on peut le faire. Parce que ça, c'est des rapports de police, et c'est des... Bon, alors là, là-dessus, il a été tiré toutes les conséquences que l'on peut tirer, c'est-à-dire que tous les gens qui ont joué un petit rôle, un rôle de meneur, en tout cas, je ne parle pas des sympathisants ou de la masse des émeutiers, mais tous ceux qui ont constitué l'encadrement se retrouvent effectivement dans certaines compagnies, dans certaines sociétés maçonniques. Ça, tous. Ça, c'est pas difficile. Vous avez... puis les autres, c'est parce qu'on ne les a pas trouvés. Mais enfin... non, bah, par exemple, Maillard. Maillard, qui est un personnage clé de la prise de la Bastille, signait avec les trois points. Il était donc maçon. Et il n'apparaît pas dans les listes dont on dispose à Paris. Il n'empêche qu'il était bel et bien maçon. Vous comprenez ? Mais pour les autres, enfin, Fournier l'Américain, Palois, enfin, tous ces gens-là sont répertoriés. Enfin, ils sont, vous les trouvez dans les listes de la Bibliothèque nationale.
Je pense que la liste...
Le fait que, curieusement, le fossoyeur de Saint-Sulpice, trois jours avant, a reçu 300 livres pour creuser des fosses pour le massacre spontané. Alors, comprenez. Ça, c'est tout de même un fait qui n'est d'ailleurs pas... Alors, moi, je suis très surpris, parce qu'il y a d'excellents... Il y a un ouvrage sur cette question, qui est la thèse de Pierre Caron, qui est de 1935, qui parle des massacres de septembre. Caron cite dans sa bibliographie Le texte de Lapis de la Pannonie indique qu'il a été photocopié par Monseigneur de Teil, ce que je vous disais tout à l'heure, mais on a l'impression qu'il ne l'a pas lu.
Mais il doute de la date de la
chaque fois, déjà. Bien sûr, chaque fois qu'un document peut être compromettant pour les hommes de la commune qui en fait ont laissé faire et même prêté la main au massacre, Caron écarte. Sans autre forme de procès, enfin je veux dire qu'il écarte. Disant par exemple, il y a des récits qui sont absolument horrifiques de ce qui s'est passé et qui sont recoupés, de ce qui s'est passé à l'abbaye. Par exemple, on a scié la gorge d'un officier suisse, par exemple, quand il était vivant. On en a percé un autre avec une lance et on l'a fait courroter dans cette position jusqu'au moment où il est mort dans la cour, et ainsi de suite. Enfin, des récits absolument horribles. Et Caron, l'histoire du verre de sang aussi, Caron écarte tout cela d'un trait de plume en disant « ce n'est pas vraisemblable ». Le reste des événements connus de la période permettent au contraire de penser que c'est très vraisemblable. Et en face d'une série de témoignages qui se recoupent sur ces événements, Caron répond « ça n'est pas vraisemblable, c'est tout ». Et sans autre forme de procès. Alors, on est un peu en présence de la même chose à propos de la spontanéité révolutionnaire. Il y a toute une série de la spontanéité, ou plus exactement de la préméditation des massacres. Et je trouve que le livre de Frédéric Bluche qui a été écrit sur la question et qui est intéressant, qui est beaucoup plus objectif, il reprend Caron, mais je crois qu'il aurait pu être plus net encore dans les conclusions en disant qu'il y a effectivement les preuves de la préméditation. Parce que ce document, Lapis de la Pannonie, qui, je le répète, est l'honnêteté personnifiée, dit, on disait, écrit, la femme du fossoyeur de Saint-Sulpice a déclaré que le fossoyeur de Saint-Sulpice avait reçu 300 livres 3 jours avant. Bon. Il y a une note qui se trouve dans une bibliothèque de Rouen, une note de la commune, une notule de la commune, qui indique que cette somme a été effectivement payée. Par conséquent, les preuves sont tout de même là. Quant à la préméditation et au paiement des assassins, alors là, il y a toutes les preuves. Elles sont ces preuves. Par conséquent, il a fallu que des fonds soient libérés à cette fin, et cela ne pouvait se faire qu'avec préméditation. Et d'ailleurs, les assassins ont protesté régulièrement parce qu'on ne les payait pas assez. Ils ont dit, mais on a fait notre travail, enfin, c'était pas des êtres d'une extrême délicatesse, on a fait notre travail, on veut être payé. Caron répond, et ça c'est le comble, Caron répond, ça ne pouvait être que des balayeurs. C'est le fond, on est en présence là, vraiment du fond de la malhonnêteté. Les balayeurs, alors qu'ils disaient, nous, les autres disent, nous sommes les tueurs.
N'y a-t-il pas d'ailleurs tout un marchandage à propos des vêtements?
Oui, naturellement, naturellement, on leur a dit, voilà, vous n'aurez que 2 ou 3 écus, mais alors vous aurez droit aux vêtements des victimes. C'est encore plus beau. Vous auriez dû nous le dire avant, répondent les tueurs. Parce que dans ce cas-là, on ne les aurait pas tués en les piquant, parce qu'on les a déchirés. On a déchiré les vêtements. Alors du coup, ils sont plus vendables. Voilà. Donc vous comprenez, ces choses-là qui sont relatées, qui sont d'une très grande, tout le monde l'a entendu. Ces choses-là sont quand même très claires. Il a bien fallu qu'il y ait eu recrutement de tueurs et qu'on leur ait promis de l'argent. Donc la préméditation, à mes yeux, ne fait pas de doute. Verdun. Et Verdun n'était pas encore tombé. Bon. Donc, il était entendu qu'on lancerait n'importe quelle nouvelle mobilisatrice le 2. Ça, c'était, la chose était réglée. On voulait effectivement extirper les prêtres catholiques de France. Ça, c'est sûr. Et tous ceux qui pouvaient soutenir. Donc ça, il était évident qu'il fallait mener l'opération jusqu'au bout, puisque d'ailleurs, la législation semblait s'y prêter, puisque les décrets que le roi n'a pas voulu signer, ils sont passés le 10 août. Donc, on pouvait à ce moment-là, à nouveau, évincer le clergé fidèle, et pourquoi ne pas le tuer puisqu'il était regroupé? Bon, on les considérait comme des êtres dangereux, naturellement, pour la Révolution. Et puis, il y a aussi l'idée, je crois, qu'il faut vraiment creuser un fossé. Idée qui reviendra, d'ailleurs, avec la mort du roi. Mais là, il fallait, je crois, l'idée était qu'il fallait établir une rupture. C'est toujours pareil, c'est comme le premier sang le 14 juillet, mais il faut vraiment que souder les gens dans une complicité...
Mais j'allais dire l'emportement collectif. C'est prodigieux.
Il y a une logique. Il y a une logique parfaite. Les gens sont conduits inexorablement à la terreur, puisque de toute façon, il ne faut pas que l'ordre vienne. Si l'ordre revenait, il les condamnerait. Par conséquent, il faut toujours aller plus loin. Et la mécanique même de la Révolution est à cet égard absolument infinie. Enfin...
À cet égard, je voudrais...
Je me suis demandé aussi, mais je suis pas sûr que ce ne soit pas les prisonniers, des prisonniers révolutionnaires d'avant. Ah ben non, c'est pas... C'est, non. Simplement, on n'a pas trié, mademoiselle, vous comprenez, c'est vrai. Ils ont su que... Et puis alors, sur les droits communs, il y a autre chose. Ils ont su qu'il y avait, qu'on transférait, par exemple, à l'abbaye, des prêtres, qui étaient arrêtés d'un peu partout, on en a regroupé à l'abbaye, on les a regroupés au Carme. Bon, alors au Carme, il n'y a pas de doute, c'était uniquement du clergé, sauf Valfond, à qui on a demandé, qui était un ancien officier, et à qui on a demandé quelle est votre profession. Il dit, je n'ai pas d'autre profession que la religion catholique romaine. Bon, du coup, bon. Mais là, on était sûr. Mais dans les autres, on pensait qu'on trouverait des conspirateurs éventuellement, des aristocrates et des gens qu'ils pourraient utiliser le cas échéant. Par conséquent, il fallait tuer tout le monde. Et puis ensuite, et surtout, il y avait une catégorie de gens à qui nécessairement cette populace s'en prenait, c'était ceux qui étaient accusés de délits économiques. Voleurs, accapareurs, etc. Parce que ça faisait quelque temps qu'on leur expliquait, et là leur mort était pratiquement inévitable, ce n'était pas ceux qu'on voulait tuer naturellement, mais tout de même, c'était depuis quelque temps, on expliquait à la populace parisienne que s'il y avait la disette, ce n'était pas évidemment à cause de la Révolution, ça aurait été suicidaire, non, c'était à cause des accapareurs. Or, les accapareurs, c'était les gens qui avaient commis des délits économiques, plus largement les voleurs, d'où l'extermination de tout ce qui tombait sous la main. Mais voilà. À la force, on a... Oui, c'est vrai. Oui. Mais dans l'ensemble, c'est
l'emportement du moment.
Alors, vous pensez comme ils ont tiré en plus, comme ils ont, je crois que c'est à la force ou à Bicêtre, ils ont tiré au canon sur les... Pensez bien que le tri était difficile. Alors, j'ajoute tout de même que, là encore, ces travaux sur les... Moi, je me suis acharné à fouiller aux archives militaires de Vincennes pour avoir les carrières militaires des gens, essayer en particulier pour un officier qui s'appelle Boiragon, savoir ce qu'il en était. Parce que Caron est toujours très affirmatif dans ses affaires. Or, en réalité, il y a des quantités de gens, et Maton de la Varenne l'a relevé au XIXe siècle, qui ont été mis dans les prisons, mais qui ne sont pas apparus dans les crous, dans les registres des crous. Alors, il y a des quantités de gens qui ont été mis à l'abbaye, par exemple, qui ont été assassinés, et dont on n'a pas trace. Vous comprenez? D'autre part, il y en a qui ont pu se sauver. Alors... les chiffres précis et les identités précises, ça n'est pas très facile, d'autant qu'en outre, toutes les archives ont brûlé en 71, à l'hôtel de ville. En 1871, la plupart des archives ont brûlé. Alors, il reste des traces, tout de même, dans des archives provinciales où ces documents ont pu être transférés. D'où, par exemple, à Rouen, cette note qui est passionnante de la Commune. Mais ce n'est pas très commode de savoir exactement qui était quoi, vous comprenez. Pour les militaires, on peut à peu près le faire grâce aux archives de Vincennes. qui sont, les dossiers sont très bien tenus, indiscutablement. Avez-vous d'autres questions?
Je vous remercie, monsieur. Je retiens une chose de cette soirée, c'est que vous avez contribué à l'histoire de la Révolution. C'est une pièce importante que vous versez au dossier. Nous allons être tout au long de l'année matraqués, on peut le dire. Et bien, grâce à vous, pour un peu rétablir la vérité. Je pense qu'il y a quelques exemplaires de ce volume dont nous avons parlé ce soir à la sortie de la salle. Ceux d'entre vous qui veulent se le procurer peuvent, je crois, vous voyez, il est en 65 francs. Et je pense que ce rencours fera l'amitié d'une petite dédicace.
Si vous voulez, bien sûr. Merci.